Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Moulin, secrétaire générale de l'association Europan France et directrice du programme Europan, et de Ruben Madard, chargé de la communication et de la valorisation d'Europan France. Bonjour Isabelle.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue une nouvelle fois dans Comme d'Archi.
Ravie de vous retrouver et merci beaucoup pour votre invitation.
Je vous en prie. Alors vous étiez intervenue dans la saison 2 à l'occasion de la présentation de la session Europan 16. Ça avait été l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous et de prendre la mesure de votre propre parcours atypique d'architecte. Votre intérêt pour la discipline se révèle d'ailleurs multiscalaire. Nous rediffusons les numéros consacrés à votre présentation d'Europan 16 ce vendredi et j'invite les auditeurs à les écouter ou les réécouter en ce qui concerne votre parcours. J'en profite pour informer qu'à la suite, nous avons interviewé de nombreux lauréats ou mentionné d'Europan 16, autant d'interviews de la saison 3 que nous rediffuserons au cours de la saison 5 et durant laquelle, je l'espère, nous aurons l'occasion d'interviewer de nouveaux gagnants du concours, c'est-à-dire la session 17.
Tout à fait.
Alors, bienvenue à vous, Ruben. Bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois, vous venez dans Comme d'Archi et afin de porter avec Isabelle l'édition numéro 17 de la compétition. Alors, car vous êtes bien ici tous les deux pour nous informer sur cette session 17 d'Europan, soit le programme d'architecture nouvelle européen. Pour rappel, Europan est un concours d'urbanisme et d'architecture. Europan est un outil pour les villes européennes et les acteurs urbains pour trouver et développer des stratégies innovantes pour leurs sites en mutation. Alors, mais tout d'abord, Ruben, pour compléter la présentation d'Isabelle de la saison 2 que nous rediffusons, auriez-vous à cœur de vous présenter à votre tour à nos auditeurs? Alors, quel est votre parcours? Comment êtes-vous parvenu à être missionné pour valoriser Europan?
Déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, mon parcours, je suis architecte diplômé d'État. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et donc j'ai envoyé, il y a maintenant quelques mois, un CV à Europan France parce que je suivais donc l'actualité d'Europan et donc j'ai pu suivre les dernières éditions du concours l'été dernier. Et donc je suis chez Europan France depuis le mois de septembre.
Alors comment ça se passe?
Ça se passe, c'est assez intense, c'est très intéressant et donc je vis un peu en ce moment avec le cycle de ce concours. Donc là, la dernière période, ça a été les visites de sites qu'on finira à la fin de la semaine avec la dernière visite à Marseille. Donc j'ai eu la chance d'être présent sur toutes les visites de sites, sur les 10 sites français. Avant ça, j'ai eu la chance aussi de voir la préparation du concours, l'événement français de séminaire d'orientation des sites, dans lequel on pouvait voir la construction des dossiers de sites qui se faisaient. Donc chaque ville venait avec un représentant, enfin, ou plusieurs, et donc passait devant, on peut dire, une espèce de jury qui les aidait un petit peu à orienter les problématiques qui se posaient sur leur territoire. J'ai pu donc faire le forum intercession aussi, qui organise la rencontre entre les représentants des sites à venir, donc ceux de la 17e session et des sites précédents, ceux de la 16e en l'occurrence. Et donc voilà pour la suite, des missions. Je vais essayer de faire mon maximum pour documenter les suites des concours précédents, les projets en cours en France.
Et oui, ensuite, parce qu'il faut que tout ça reste vivant à chaque fois.
C'est ça.
Ouais. Oui, et puis qu'on tienne nos engagements, en fait, à la fois avec les collectivités et puis aussi avec les jeunes professionnels. C'est-à-dire que c'est, je pense, aujourd'hui, le seul concours ouvert qui débouche sur des commandes publiques, des commandes auprès des collectivités. Donc, c'est quand même très important de le faire.
Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez aussi musicien. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Et sachant que vous avez aussi une pratique musicale?
Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un équilibre assez sympathique entre la musique et mon activité, du coup, en tant que chargé de communication pour Europe en France. C'est assez neuf, c'est depuis septembre, donc je découvre ça et on verra par la suite.
D'accord. Alors maintenant, concernant l'histoire d'Europe 1 et ses réussites emblématiques, je renvoie nos auditeurs de la même façon à la rediffusion des numéros 78 et 79 de la saison 2. Attaquons le vif du sujet. Le thème de cette année, c'est « Réimaginer des architectures en prenant soin des milieux habités ». Pouvez-vous nous en dire davantage tous les deux sur ce thème? Et 52 sites sont présentés pour Europe 1 17, dont 10 en France, où les grandes métropoles y sont représentées. Marseille, Nantes, Rouen, Rennes, Reims, Grenoble, je crois encore. Vous allez aussi nous les présenter. Mais d'abord le thème, la thématique.
Alors, cette thématique, ville vivante, 2, on est dans les saisons aussi, finalement. Eh bien, alors c'est toujours l'histoire que j'ai dû vous raconter, ce récit qui explique que les thèmes viennent des projets rendus, en fait. Et ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait deux fois le même thème. C'est bis repetita, mais avec à chaque fois c'est pas on recommence, c'est-à-dire qu'on continue. On continue
l'investigation.
Une session sur un thème. On se sert aussi des saisons précédentes et on peut dire qu'il y a aujourd'hui un enchaînement très intéressant entre villes adaptables, Europe 12 et 13, villes productives 14 et 15 et villes vivantes 16-17. Et on voit aujourd'hui d'une façon accélérée des changements assez radicaux dans la façon dont les jeunes candidats répondent au concours. Et on devrait d'ailleurs, en règle générale, s'y intéresser beaucoup plus et aller au fond des choses. Alors, on le fait un peu en mettant en place les suites du concours, mais il y a vraiment une matière qui leur appartient, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de faire un grand ensemble de réponses, mais dans le fond, il y a vraiment des propositions très intéressantes, des positions aussi de plus en plus affirmé sur l'idée d'un métier qui évolue et qui doit évoluer. Force est de constater également des difficultés qu'ont aujourd'hui les jeunes professionnels en sortant de l'école et en sortant des agences ou en exerçant tout simplement pour réaliser leurs rêves, comme vous disiez. Le mot rêve, il est très important et on le retrouve cette année dans le thème. C'est-à-dire, on a mis dans le mot imaginer, réimaginer. Réimaginer, c'est imaginer encore. Réimaginer, ça peut faire référence à des périodes de l'architecture où on se permettait d'imaginer des périodes de l'histoire de l'architecture. On se permettait, et où il y a eu parfois même sécession de la part de certains architectes qui sont devenus ensuite très connus parce qu'ils avaient dit « stop, c'est pas ça qu'on veut faire, ce qu'on veut faire c'est ça hein, ». Je pense au mouvement Tim Ten, je pense à des grandes utopies qui sont devenues concrètes aussi et qui ont parfois un peu dégénéré. Mais en tout cas, qui étaient des positions assez radicales. Et aujourd'hui, on en voit des positions assez radicales et j'espère qu'on aura l'occasion de donner beaucoup plus la parole maintenant qu'il est nécessaire aussi de donner son avis et de de donner des avis collectifs, des avis aussi professionnels, pour finalement enclencher une transition absolument nécessaire et très importante en architecture, dans la façon d'opérer ce métier, dans la façon de le transformer. L'architecture, évidemment, c'est un terme qui a toujours été très présent. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas simplement l'architecture du bâti ou du bâtiment. C'est l'architecture des idées, l'architecture peut-être de l'édifice, certes, mais dans un milieu beaucoup plus large. C'est l'architecture comme celui des milieux habités. Et c'est bien ça qu'on a posé comme question. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi, pour cette deuxième session, de faire atterrir, comme disait Bruno Latour, c'est encore un livre ou atterrir, qui est très important, parce qu'il parle de ça aussi. Comment on peut finalement mettre en œuvre ces idées, en les faisant justement, en les appliquant, en les faisant naître dans ces milieux habités. Car nous habitons des milieux, et l'architecture, c'est la construction de ces milieux habités, depuis toujours. La ville, c'est aussi l'architecture de la pensée, de la culture, etc. Et donc, on a resitué l'architecture dans ces milieux habités. Et ce n'est pas réimaginer seulement le bâtiment, même s'il en est question. Hein. C'est aussi imaginer comment on vit ensemble.
Alors, est-ce que quelque part, je ne veux pas caricaturer, mais en tout cas pour rendre tangible à tous les auditeurs ce que vous venez de dire, est-ce que c'est quelque part sortir de la boîte, sortir de cette vision un peu monolithe qu'a eu l'architecture pendant le XXe siècle ? Et que le commun des mortels aujourd'hui rejette.
Oui, alors d'autant plus qu'on a effectivement énormément produit de constructions diverses à toutes les échelles, des infrastructures, des bâtiments, des usines, des centres de production. On a abîmé aussi beaucoup, on a réalisé des choses extraordinaires au cours des deux derniers siècles, 19e, 20e, mais aussi on a beaucoup outrepassé, comme si on n'existait plus, on ne faisait plus partie finalement du vivant, et comme si on était externe à ça. Et donc on s'est mis à fabriquer quelque chose qui est aujourd'hui monstrueux, on le voit. Les catastrophes dues au réchauffement climatique, c'est monstrueux, ça fait des morts, il y a des destructions massives, on le voit en Émilie-Romagne aujourd'hui, avec les inondations, etc. C'est-à-dire que on se rend compte que c'est pas seulement un discours de parler du réchauffement climatique, il nous met en danger, tout simplement. Le fait de s'être abstraire de ce vivant nous a mis en danger. Et a mis en danger beaucoup de choses. L'équilibre social, les relations entre les êtres humains, qui n'a jamais été facile, il y a toujours eu des guerres, toujours des conflits, mais quand même, les deux derniers siècles, même voire avant, si on peut parler de la colonisation aussi, notamment, qui a engendré des catastrophes et qui les engendre toujours, on s'aperçoit que, en fait, si on continue comme ça, eh bien, on va disparaître, tout simplement. Alors, ça ne sera pas ce siècle-là, ça sera peut-être le suivant, mais il y a une conscience qu'on peut faire autrement. Et donc, c'est ça l'utopie d'aujourd'hui. C'est une utopie qu'il faut rendre concrète. C'est passer à l'action pour faire autrement, pour vivre autrement les uns avec les autres, etc. Et donc, forcément, on le trouve à toutes les échelles autour de nous. La chaleur, la catastrophe, la destruction du vivant, on en parlait encore, c'est pas maintenant, c'est sur Radio France, c'est sur France Info qu'on en parle, de la disparition du vivant, des oiseaux, etc. Des équilibres et... Et ça, c'est l'action de l'homme. C'est pas une autre action. Alors, il peut y en avoir. Il y a eu des météorites qui ont tué les dinosaures à une certaine ère.
Oui, et puis il y a eu des périodes chaudes, des périodes froides, etc.
Bien sûr. Mais là, on se rend compte que l'action de l'homme. Et l'action de l'homme, c'est aussi construire nos quartiers, nos villes, nos habitations. C'est vivre ensemble, c'est partager, c'est... Et, on parle de tout ça à Europan. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas parler de tous les problèmes de la planète. Bah si, en fait, hein, on peut, mais à travers des sites très réels, des situations réelles. Et en l'occurrence, ce n'est pas nous qui en parlons à Europan, c'est les collectivités avec qui on travaille. Mmh. Et puis ensuite, pour donner la parole aux candidats.
Alors, peut-être, Ruben, que dans ce changement de paradigme dans la pratique de la discipline. Vous, porteur de la jeune génération, vous avez une vision, la manière dont les choses sont en train de muter.
Je pense que le thème fait écho à l'idée de métabolisme urbain aussi. C'est-à-dire que ça complète ce qui a été dit, mais cette idée que le stock de bâtiments, le stock d'infrastructures qu'on a en ville est peut-être assez fixé, ou en tout cas il approche de quelque chose qui pourrait être un maximum, on le voit par exemple avec les lois ZAN, et donc on va plutôt s'intéresser au flux qu'on a à l'intérieur de la ville, le flux de marchandises, le flux de vivants, donc les gens aussi, potentiellement les animaux, et donc là, le cycle de la végétation, et aussi voilà, aux temporalités. Je pense que c'est des choses qui ont pas mal émergé dans le thème Europan 17, grâce aussi aux réponses des candidats des dernières sessions.
Alors, 52 sites, dont 10 en France.
10 sites, oui, c'est formidable. Bon, alors 10 sites, c'est beaucoup. C'est aussi très représentatif d'un paysage qui est très varié aussi en France, en termes de villes, de configuration urbaine, d'histoire urbaine, de géographie. Et puis 10 sites, ça permet, on a réussi, alors c'est vrai que pendant longtemps, il y avait peu de sites, mais on a élargi aussi pour donner la parole finalement, pour permettre à des collectivités de s'exprimer. Petites villes, villes moyennes, alors on n'en a pas beaucoup cette année, mais...
Oui, je trouve qu'il y a...
Oui, mais ça, c'est très intéressant justement qu'on n'en ait pas beaucoup, parce qu'on a failli en avoir beaucoup, mais on n'en a pas beaucoup, et on n'en a plus. mais en fait, ça prouve bien aussi que finalement, on est toujours en train de classifier, mais les classifications changent.
Mais ça veut dire quelque chose.
Une petite ville, elle a énormément de relations avec une métropole, parfois, où elle n'en a pas, ou voilà. Alors, ça veut dire, je peux en parler juste deux secondes, on a eu beaucoup de contacts avec des villes de taille moyenne, et non pas de moyenne importance. Et puis, ils sont partis dans beaucoup de projets. Depuis quelques temps, il y a eu aussi les politiques publiques comme Action Cœur de Ville, qui font qu'ils se sont souvent lancés dans beaucoup de projets. Et bien, un mandat électoral, c'est assez court, finalement, et qu'il faut... et donc, tous nous ont dit, non, ça sera mieux la prochaine session, parce que là, on est un peu court, on n'a pas le temps, ça fait beaucoup de choses, ils ne sont pas très nombreux non plus dans les services, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et ça fait beaucoup de travail, et souvent, d'ailleurs, nos sites, je remercie vraiment les représentants des sites techniques aussi, les élus, bien sûr, mais aussi les techniciens, car ils sont... vraiment, ils donnent beaucoup de leur temps, qui est précieux, parce que on travaille beaucoup dans les services des villes, énormément, parce qu'il y a, voilà, il y a de plus en plus de choses à faire, hein, ça c'est sûr. Et donc, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé aussi que Europan 16, on avait fait le concours avec deux petites villes qui étaient inscrites dans le programme Petites Villes de Demain. On a réitéré ça parce que, eh bien, on a eu beaucoup de demandes de la part des DTM ou des DT qui ont trouvé quand même que c'était super bien, Europan. Ça fait bouger les lignes, ça fait faire un pas de côté, ça élargit les sujets, ça permet aussi après de mettre en place des PLUI, ça porte plein d'idées, ça redynamise. Ça met en valeur aussi ce qui se passe dans des petites villes, avec des habitants, qui ne le sont pas forcément, et ça révèle des situations incroyables, extraordinaires.
Par exemple. Voilà.
Alors, je vais vous en parler, mais là, on a quatre petites villes qui sont dans le programme Petites Villes de Demain, d'ailleurs, ce qui leur permet d'avoir quand même aussi, grâce au DDT, des aides aussi, hein, grâce aux services de l'État, des aides, mais on a aussi cinq métropoles. Et si les métropoles viennent vers Europan, c'est pas pour rien. Elles ont en général du monde à la maison, comme on dit. mais d'abord, on est un concours ouvert, européen, et qui permet justement peut-être de rebattre les cartes à des moments où il y a soit essoufflement sur un projet, soit pas vraiment d'ouverture. Ça se referme un peu. Et puis, on est face à des difficultés parfois assez... énorme, et je dois dire avec fierté que les jeunes candidats, ça ne les dérange pas du tout de s'attaquer à l'Hôtel Dieu de Nantes, par exemple. Hein? Voilà. Parce qu'après tout, c'est un extraordinaire terrain de jeu.
C'est le sujet sur Nantes ?
Sur Nantes, c'est le sujet. C'est l'Hôtel Dieu.
Ah oui.
Je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Enfin,
c'est énorme.
Je le saurais si je révisais ma fiche synthétique de site. Ouais. C'est énorme.
Ouais.
Et Évidemment, il ne s'agit pas de redessiner entièrement ou d'imaginer des programmes. Non, il y a quand même une question qui est posée. Comment rendre à la ville cet édifice, cette énorme machine qui a été réservée à l'assistance publique? Donc quand même, quelque part, il y a une perte aussi pour la ville, puisque l'hôpital est beaucoup plus loin. Alors, il sera sans doute plus efficace. Enfin, on n'en sait rien. Ça, je ne suis pas du tout bien placée pour en parler. Mais il y a cet édifice extrêmement complexe, extrêmement neuf aussi pour certains bâtiments, avec des services qui resteront, mais pas tous. Il y aura beaucoup
avec
de place.
Avec une sacrée emprise. Ouais.
Une très grande emprise, qui est aussi une omerta dans la ville. Donc, c'est qui est quand même fermée sur la ville. Donc, il faudra rouvrir sur le paysage. Rouvrir sur la nature, comment, je ne sais pas, nous le dirons, parce qu'il y a aussi des niveaux de sous-sol assez conséquents. Comment on s'attaque à ça? Et ce n'est pas anodin, parce qu'on a, en Europe cette année, 3 sites qui proposent des hôpitaux qui vont ne plus être des hôpitaux. Nantes, Rennes, avec l'hôpital Sud, sur un sujet très différent, une situation très différente, parce qu'à chaque fois, eh bien, ce n'est pas parce que c'est 2 hôpitaux que c'est pareil, pas du tout. Et puis, on a Göteborg, je crois, en Suède, hein, qui propose un hôpital aussi à transformer. Qu'est-ce qu'on fait d'un hôpital? On peut en faire plein de choses. Et à chaque fois, la question est posée très spécifique. Mmh. Évidemment, il y a, à travers ces sites, énormément de possibilités. Et c'est ce que Europan va pouvoir mettre. C'est un concours d'idées, évidemment, on ne demande pas... des niveaux d'APS, hein. Enfin, l'Europe n'existerait plus, mais se prononcer aussi sur eh bien, tous ces bâtiments énormes, souvent du XXe siècle, très souvent patrimoine, architecturaux, très beau. À Nantes, c'est aussi cette croix, là, ce bâtiment qui est d'ailleurs protégé en qualité d'édifice du XXe siècle, patrimoine XXe siècle, et puis qui a l'histoire aussi, qui porte l'histoire hein, quand même de la santé. Et puis... c'est difficile, ben oui, mais ce serait facile, ce serait pas drôle. Donc, comment aussi, évidemment, à travers cet édifice, et pour l'hôpital Sud, c'est absolument pareil, comment permettre de réunir différents acteurs? Il y a les candidats, il y a la ville, il y a métropole, et puis autour, il y a aussi, ensuite, après le concours, il y aura de la concertation, il y aura de la discussion, et ça permettra de commencer... réfléchir à la fois sur le court terme et sur le très long terme. Mmh. Sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'à Europan comme ailleurs, un projet définitif à faire en 10 ans, ben, on ne sait pas en fait. Hein. On ne sait pas s'il sera fait comme ça dans 10 ans. On n'a pas forcément tout de suite les financements.
Mais
et donc,
ça,
il faut commencer un processus. Et c'est ce qu'on a appelé les projets processus. C'est un processus de projet qui va permettre aussi, et il y aura certainement des équipes qui se prononceront sur la méthode de projet, comment on fait? Par quoi on commence? Par quel bout on prend cet animal qu'on voudrait renaturer, rendre un peu plus sauvage qu'il ne l'est?
Oui, là, il y a de quoi faire.
Ben, bien sûr, mais on ne fera pas tout en 4 mois avec un concours, non, mais on va commencer à...
Alors, et vous avez Marseille?
Marseille, passionnant. Alors, tous les sites sont passionnants, je pourrais en parler pendant des heures. Mais alors, Marseille, on va en visite de site après-demain. Marseille, c'est la première fois que se retrouve autour de la table pour parler projet, la ville, la métropole et Euro-Méditerranée. Jusqu'à maintenant, je pense que ces 3 entités de gouvernance politique ont fait des projets séparément. La métropole est relativement jeune. Très jeune même. La ville, évidemment, c'est Marseille. C'est une ville
emblématique. Antique, emblématique.
Antique, emblématique. Et Euroméditerranée est un établissement public ancré depuis longtemps avec tous les projets qu'on connaît. Mais qui, voilà, tout ça, ces 3 entités ont produit beaucoup de projets avec parfois des visions politiques différentes. Et même si je rappelais quand même, évidemment, à Euromed qu'il y a des acteurs qui sont à la fois de la métropole et de la ville. Mais pour la première fois, on a passé beaucoup de temps, et je remercie encore une fois les représentants de ces 3 sites, techniques aussi, d'avoir pu, politique d'être venu dans l'aventure, et puis technicien d'avoir réussi cet exercice extraordinaire de mettre autour de la table donc, ces 3 entités pour Eh ben, qu'est-ce qu'on va demander aux candidats d'Europan ?
L'ADN du projet.
Voilà. Alors, on part du ruisseau des Égalades, qui est une matière vivante, qui souvent disparaît, qu'on ne voit pas, qui va rejoindre le vieux port dans un milieu extrêmement dense, habité, et là on parle de la partie nord de Marseille, des quartiers nord de Marseille, habité ou pas, parce qu'il y a énormément de friches aussi, ferroviaires, industrielles, etc.
On en a déjà parlé ici avec l'agence Leclerc.
Voilà, et d'ailleurs François Leclerc est président de notre jury. Donc ça, je pense que ça va aider aussi peut-être le jury à comprendre aussi la situation marseillaise, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais cette situation, elle engendre des projets qui sont juxtaposés et qui ne se lient pas les uns les autres. Donc, en fait, ce site marseillais, il parle des interfaces. Il parle du lien à recréer. Il parle à la fois social et à la fois du lien physique. Et il parle aussi des empêchements, des ruptures, des infrastructures qu'il faudrait transformer. On s'attaque à presque un poulpe avec Europan. C'est presque un poulpe à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des tentacules, et les candidats devront faire leur chemin eux-mêmes aussi dans ces sites absolument prolixes, absolument d'une beauté incroyable quand on aime la ville. Il y a des lieux extraordinaires, mais il faudra faire son chemin pour trouver le bon endroit où atterrir.
Le point d'ancrage.
En termes de projet, le point d'ancrage. Mais bon, peut-être choisirais Marseille si je faisais le concours. Mais Grenoble aussi. Enfin, il y en a plein, ils sont tous géniaux. Et là, je vous parle des métropoles.
Oui.
Mais parfois, à une échelle totalement différente, je parlais de l'édifice nantais, de l'Hôtel Dieu ou de Rennes, de l'Hôtel Sud. Mais à Florence, on a une magnifique friche agricole qui est assez petite comparée à l'Hôtel Dieu de Nantes, mais qui pose la même question. Comment est-ce qu'on transforme ce lieu pour en faire un lieu peut-être plus ouvert sur la ville, qui resserve la ville. Il a servi longtemps comme un équipement coopérative agricole, construit sur d'anciens jardins. Comment aujourd'hui on peut le rendre de nouveau vivant? Et surtout, parce que la ville l'a acquis, il est propriétaire de ce site, et comment il peut permettre de redynamiser la ville.
Alors, il y a aussi des villes un tout petit peu plus petites, Rouen, Reims.
Oui, alors, Rouen, c'est quand même une métropole.
Vrai.
Alors, ce n'est pas une immense métropole, mais tout est relatif, parce que depuis qu'Antoine Grumbach nous avait dit que le Grand Paris, c'était de Paris jusqu'à la Seine, Rouen a pris une dimension aussi.
Avec les réinventés.
On s'en rappelle. Avec les réinventés. On avait déjà fait un site à Rouen pour Europan 12, donc on revient. Et c'est marrant parce que le site actuel, il suit la Seine, en fait, dans un endroit qui était fortement industrialisé, qui l'est beaucoup moins.
Il
avec
est
aussi beaucoup de friches. Il se situe. Il va de Rouen à Amfreville, et puis dans des endroits qui sont à la fois urbanisés, de l'autre côté de la Seine. Donc on parle, en fait, le nerf du secteur et du sujet d'Europan, c'est la Seine. C'est poursuivre aussi une vision de la Seine rendue à la ville et rendue à la métropole, comme ça a été fait par la métropole, d'ailleurs pas la ville et la métropole. Mais c'est poursuivre cette idée du projet pour aller vers des plus petites villes faisant partie des métropoles, comme Amfreville, mais aussi regarder dans des endroits où on va rentrer en contact avec la nature, c'est-à-dire Rouen, c'est dans une vallée, il y a beaucoup de vallées qui arrivent sur cette vallée elle-même, évidemment, et une vallée assez encaissée, puisque tout de suite, il y a des coteaux qui sont très naturés, etc. Et avec des villes, des milieux habités. Donc, comment est-ce qu'on va permettre à ces milieux habités, d'aller retrouver le fleuve, ce fleuve majeur, qui apporte énormément d'apports à la fois économiques, mais en même temps humains, de mode de vie, etc., d'eau aussi. C'est l'eau. En fait, l'eau, c'est pour ça qu'il y a Rouen, c'est qu'il y avait la Seine, c'est pour ça qu'il y a cette ville construite là. Et comment on va permettre, finalement, aux gens qui vivent là aussi, mais aux visiteurs, de venir se reconnecter avec la Seine et aussi les coteaux. Donc, c'est de trouver finalement ces cheminements. Alors là, ça sera moins de transformer les friches parce que ce sont du foncier privé, ça le restera forcément. Et puis, on ne peut pas. L'idée, ce n'est pas que tout devienne public. Il y a aussi des entités qui restent Après, on peut conduire le devenir de ces friches, mais ça, ça appartient aux politiques. Mais par contre, ce qu'on peut trouver, c'est comment rendre habitable et agréable ces bords de Seine.
Oui, parce que ça a été très industrialisé.
Voilà, mais ça l'est toujours. Donc là, on est plus dans des problématiques villes productives qui croisent villes vivantes. Oui. Comment permettre à la fois le maintien d'une activité, le sujet de la réindustrialisation est comme...
Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont en friche.
Voilà, beaucoup de friches, mais comment permettre aussi, finalement, de continuer l'activité économique, mais en même temps d'y habiter aussi pour d'autres motifs. Pour quitter Rouen, par exemple, en bateau, pour traverser, pour aller de l'autre côté vers des villes habitées, comme Hérouville-Saint-Clair, etc. Comment permettre, comment faire en sorte que le fleuve qui a été assujetti à l'industrie et au transport maritime, comment il peut être aussi redonné aux habitants?
Oui, retrouver des berges, peut-être.
Voilà, exactement. Et les animaux, bien sûr. Hein. Oui. Il y a le vivant, beaucoup d'oiseaux suivent la Seine. On voit qu'à Paris, dès qu'il y a un coup de vent, il y a plein de mouettes qui viennent, qui remontent la Seine.
Bien sûr. Alors, le pays du Champagne?
Alors, le pays du Champagne, on est loin du Champagne, là.
C'est vrai. C'est,
oui, on est plutôt du côté de l'histoire de l'aviation militaire. C'est une ancienne base aérienne et c'est un site très particulier. Pourquoi? C'est qu'il ne nous a pas été proposé par une ville, par une collectivité. Même si la ville de Courcy est partie prenante dans le concours, elle fait partie de ce projet de Microville 112, qui est une SIC, qui est une société. C'est un site privé qui a été donc acheté par cette SIC, et dont la maire de Courcy est adhérente, et même associée. Et donc là, c'est très intéressant parce que y avait une entrée un peu technique sur ce site. Alors d'abord, c'est une ancienne base aérienne, c'est une partie d'une ancienne base aérienne. On n'est pas concerné par toute la partie tarmac, etc., qui restait et qui est sur une autre commune, mais on est sur le secteur de la base aérienne, de l'ancienne base aérienne de Courcy, qui sont tous les bâtiments qui abritaient les militaires. Pendant des années, même des appelés, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il y a une trentaine d'années, et qui sont en très bon état, mais qui sont vides depuis, et qui sont inutilisés, qui étaient des bâtiments donc militaires, avec aussi du patrimoine architectural très très important.
Et de la pollution
Pardon ?
De la pollution ?
Peut-être, j'en ai sans doute. Ouais. Sans doute, comme dans toutes les
friches militaires.
Oui, et puis aussi beaucoup de friches industrielles, de l'amiante, parfois des dépôts. Mais bon, je dirais que on le voit pas parce que tout le site a été reconquis par une végétation de reconquête, c'est-à-dire bouleaux, saules, etc., et qui ont poussé et qui donnent quand vous allez à Courcy, j'ai eu le sentiment de retrouver un peu des sensations d'Allemagne de l'Est quand on est rentré après la chute du mur et qu'il y avait des ambiances comme ça parfois abandonnées ou du temps qui s'était arrêté à un moment donné. Qu'on trouvait aussi dans Berlin-Est, parce qu'évidemment on était curieux, on allait voir, on allait se promener dans... Et il y a des bâtiments en très bon état. Bon, évidemment, oui, bien sûr qu'il y a des travaux à faire, mais il y a des bâtiments qui ont une vraie qualité. Il y a une végétation qui est là, il y a des infrastructures, il y a des réseaux, il y a des routes. Et l'idée de la SIC, c'est de créer une micro-ville, voilà, de créer un lieu où on pourra faire aussi des expériences, un lieu peut-être qui deviendra autonome en énergie, et de faire un lieu associatif qui serait constitué de gens qui prendraient comme ça des terrains et des parts et qui pourraient avoir des projets il ne s'agit pas de faire des quartiers d'habitation, c'est pas dans les règles pour l'instant, mais plutôt des activités.
D'accord.
Ça peut être de l'agriculture à de l'expérience énergétique, développer des brevets, je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on s'est dit, on peut y aller. Voilà. Alors évidemment, c'est pas en dehors des règles. Mais ils ont besoin d'un projet d'architecture et de paysage et d'urbanisme parce que évidemment qu'ils ont beaucoup d'experts, évidemment qu'ils sont inscrits dans beaucoup de programmes européens qui leur donnent aussi qui leur financent des expertises, etc. Mais ils ont besoin d'une vision, probablement. Et nous, la première chose qu'on a dit, quand ils ont fait candidature, on leur a dit, mais vous pouvez pas vous passer quand même de la participation, même de loin, de votre... alors, c'est pas une métropole, Reims, mais c'est une grande agglomération, du Grand Reims. Parce que la question de la mobilité, on est à 10 km de Reims, hein, la question de la mobilité est essentielle, la question des compétences aussi de cette grande agglomération. Et nous avons reçu un courrier de Grand Reims en disant qu'ils étaient tout à fait intéressés par Europan. Donc là aussi, Europan favorise finalement aussi l'intérêt, non seulement évidemment des professionnels, des jeunes professionnels, mais aussi finalement ça déclenche un intérêt commun pour ce qui se passe quelque part. Et donc, c'est là où je reviens au multiscalaire qui est indispensable aujourd'hui pour penser la transition sociétale. Penser les différentes échelles, c'est indispensable. Et nous avons dit à Microville 112, à cette SIC, nous avons dit, vous ne pouvez pas être tout seul. Nous, on veut rencontrer la maire de Courcy, même s'il y a très peu d'habitants, et qui est très active aussi, et qui porte beaucoup ce projet. Et nous voulons aussi vous dire que c'est indispensable, même si c'est une sorte de précaré. Bien sûr que c'est votre bébé, etc., ce territoire, mais il ne peut pas échapper au territoire, il ne peut pas échapper à la nature, au paysage. Et à l'agglomération, bien sûr.
Est-ce que vous voulez mettre en avant peut-être un dernier site ?
Alors, on pourrait parler de tous les sites. Ils ont tous une spécificité. Évidemment, le palais Belle-Île-en-Mer, c'est quand même incroyable. Quand on a vu arriver la candidature de Le Palais, on s'est dit, quel cadeau, quoi. Enfin, voilà, tout le monde connaît Belle-Île-en-Mer. Enfin, il y a quelque chose. Alors, c'est justement ça le problème. Parce que... 5500 habitants et jusqu'à 35 000 l'été. Donc, vous comprenez ce que ça enclenche. En plus, c'est des questions de ressources, questions de submersion marine, etc. De gros problèmes. Enfin, là, l'idée, c'est aussi de trouver par quoi commencer. Et puis, mais évidemment, on était en visite de site. On a fait un atelier, une journée entière. 40 inscrits à la visite de site. C'était presque déjà des discussions sur... comment faire ? Une proposition très intéressante de candidat qui disait « Mais enfin, pourquoi c'est un concours européen ? Il faut qu'on passe au-delà de ça. On ne doit plus être en compétition pour la transition. On doit être ensemble. »
Mais quelque part, ils le sont.
Mais ils jouent le jeu du concours, bien sûr. Voilà. Et ce qu'ils disaient, c'est que voilà, ils appelaient à une réflexion quand même sur l'issue du concours. Oui. Et peut-être qu'ils ont trouvé peut-être le moyen de créer des collectifs. Je n'en sais rien et je ne veux surtout pas le savoir. Ce concours est anonyme. Moi, maintenant, je ne veux rien savoir.
Ben, bien sûr.
Parfois, on essaie de deviner. On regarde les projets avec nos experts. On dit, tiens, tu ne crois pas que c'est un tel ? Ah, peut-être, regarde. Mais bon, on s'amuse, c'est un jeu. Parce qu'on
a un devoir.
Et puis moi, je suis garante du respect
bien sûr.
De l'anonymat absolu du concours. Je redis un petit message adressé à tous les candidats. Ne postez jamais votre projet sur Instagram. Ne faites pas l'erreur d'être trop content de ce que vous faites et de le publier ni sur vos sites internet, ni avant les résultats du jury.
Ouais. Bah oui, parce que
vous seriez exclu. Vous seriez exclu. C'est arrivé pour Europan 15. On a exclu. On était obligé d'exclure une équipe de la compétition.
Ouais, je me souviens, vous en aviez déjà parlé. Bon, alors, très attention. Là, c'est, sur ce site, c'est là où il y a le plus d'inscrits ?
Un des sites en Europe où il y a le plus d'inscrits. Mais à Florence aussi, on a énormément d'inscrits sur ce silo et ce lieu très intéressant. Bernay, on n'en a pas beaucoup parlé. Bernay, terre de Normandie, une vallée entière, qui est petite ville de demain d'ailleurs, avec différentes villes. Et là aussi, ça a été compliqué de monter ce site. Je remercie le CAE de l'Eure qui nous a beaucoup aidés. Sabine Guittel qui est en direction du CAE. Je crois que sans elle, on n'aurait jamais réussi aussi à... Et puis aussi Aurélie Lefebvre qui porte ce concours, qui porte beaucoup cette démarche. Ils étaient déjà inscrits, la vallée, dans Vallée Habitée. Ils ont, mais là, ça, c'est très intéressant parce que sur les 4 sites proposés, alors évidemment, les candidats ne sont pas obligés de redessiner tous les 4 sites, ce n'est pas ça le sujet. Hein. C'est d'avoir, quand on a un multisite, c'est d'avoir une pensée globale, en fait, et de pouvoir soit... on a une réflexion globale et on l'applique sur un site, soit on part d'un site et, ou des 4 sites, leurs spécificités, et on en déduit une réflexion globale. Bien sûr, après, à charge à chacun de trouver la méthode. Mais là, on a des sites propriété de la ville, à Brionne. On a parfois déjà des sites aussi. On a un autre site porté par une association qui a acheté le site, avec le maire qui est rentré dans l'association. Mmh. Donc là, on l'avait jamais vu jusqu'à maintenant, un peu comme à Courcy. Et on a des sites privés avec des propriétaires privés qui participent même financièrement au concours et qui ont mis leur site au concours parce qu'ils avaient eu des coups de cœur, ils avaient acheté le site. C'est notamment à Cerquigny, mais il y a aussi et à Nassandre. Je me tourne vers Ruben parce que parfois je confonds un peu les noms. Et puis aussi, voilà. Donc c'est l'histoire de la désindustrialisation. Peut-être réindustrialisation, mais surtout, c'est l'histoire du dézoning et puis de comment, finalement, cette vallée réalise qu'elle a beaucoup de chance d'avoir aussi tous ces sites. Parce que c'est un, surtout avec la Loisanne, ça va être aussi une possibilité de faire.
C'est encore de l'espace vacant.
Oui, et que parfois, peut-être, il faut le garder en partie vacant aussi. Mmh. On n'est pas obligé de tout remplir tout le temps. On a cette espèce de défaut du XXe siècle, de vouloir remplir tous les vides. Heureusement, les paysagistes sont arrivés dans le concours depuis une dizaine d'années. Ils sont très forts et ils sont en capacité souvent d'avoir une vision très large. Et c'est eux qui disent l'espace vide compte autant que l'espace plein.
D'ailleurs, je trouve que dans les paysages en France, il y a un vrai changement. Alors moi, j'en déduis de manière peut-être très naïve que c'est la place du paysage auquel on porte de plus en plus attention. Non, ça ne vous frappe pas?
Alors, je ne sais pas si on y porte... Alors, qui y porte attention? Les habitants, les
probablement
visiteurs, les promeneurs?
Les collectivités.
Les collectivités, tout à fait.
Je trouve qu'il y a une renaturation des rives sur les routes, des berges. Et ça devient beaucoup plus fort.
Oui, c'est vrai. Et en même temps...
Il y a encore beaucoup de boulot.
Oui. Et puis, il y a une réflexion indispensable à avoir sur l'agriculture. Comment on exploite la terre, comment on produit, parce qu'on la surexploite. Pour ça, alors, moi, je ne vais pas entrer dans un débat sur l'agriculture, mais voilà. Ouais. Mais il faut repenser autrement aussi, parce que l'agriculture, c'est le vivant, en fait.
Vous rentrez beaucoup dans ces sujets-là?
L'agriculture, pas encore. Là, je dois parler de Grenoble-Alpes-Métropole. Qui a proposé le site Europan sur une emprise qui, pour l'instant, appartient beaucoup à l'imagination, mais c'est très intéressant, qui s'appelle le Grand Parc des Boucles de l'Isère, qui n'a pas une réalité dessinée dans les règlements. Le Grand Parc des Boucles de l'Isère, c'est un projet à long terme qui commence à se construire, qui se construit de plus en plus, qui comporte plusieurs parcs qui existent aujourd'hui. Et là, c'est très intéressant parce que, pour reparler de cette question du paysage qui est de plus en plus présent, alors en tout cas, Europan de plus en plus présent, bien sûr, puisque comme on a effacé, c'est la géographie, finalement, on repart sur les traces peut-être d'Augustin Berg, de la pensée d'Augustin Berg, sur cette notion de géographie à la fois humaine et puis à la fois des activités humaines. Il n'y a plus de limites aujourd'hui. Et des candidats nous l'ont dit pour Europan 16, c'était la biorégion, etc. À Grenoble, c'est très intéressant parce que on est en limite de la ville. Donc, on va avoir un premier site qui est une friche industrielle à transformer, qui va être transformée, qui laisse du terrain, etc. Et puis, au-delà, on a un deuxième site de projet. À chaque fois, on a des petits sites dans un territoire de réflexion très large. Et là, on arrive dans un secteur agricole où il y a une ferme qui a été rachetée par la métropole, qui va être transformée et qui va laisser la place aussi à une autre forme d'agriculture, mais pas que. Qui pourra accueillir de la formation, qui pourra accueillir des gens, peut-être des associations qui voudront remettre un pied dans la terre, remettre les doigts dans la terre. Et donc là, on est directement confronté à la question agricole et les paysages.
Bon. Alors maintenant, j'avais deux questions. D'une part, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette session? Je crois qu'il y a un élément qui est neuf. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et d'autre part, peut-être évoquer le processus du jury ou des jurys.
L'élément neuf, c'est... on est très optimiste parce qu'en fait, on a regagné des pays participants. La Croatie était sortie, elle est revenue. On a la Slovénie qui participe avec un site. Alors, ils se sont associés à un pays, à l'Autriche, mais pour repartager le jury, etc. Mais c'est quand même formidable d'avoir un site en Slovénie. Et donc, tout ça nous a enthousiasmés. La Hollande est revenue, elle était sortie. On a eu la saison 16 en plein Covid. Hein. Il faut s'en rappeler, c'était compliqué. Mmh. Et donc, il y a un regain, il y a un regain d'inscription. C'est vivant. Donc là, on est très contents parce que deuxième session, la ville est vraiment vivante. La session est vraiment vivante aussi.
Alors, le jury, où l'est ?
Alors, la méthode du jury, elle est toujours la même. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment avancé, mais on peut trouver, peut-être que le jury, le président du jury, fera des propositions quand ça arrivera. On n'a pas une méthode arrêtée, on a une méthode en marchant aussi quand même. Évidemment, il faut de la technique, on va recevoir plusieurs centaines de projets, il faut pouvoir les analyser. Nous avons toujours une commission d'expertise des projets qui va... Alors, là, je le dis vraiment à destination de tout le monde, on ne bâcle pas la période du jury à Europan. Hein. Elle nous prend 4 mois. Analyse de tous les projets, transparence aussi des projets donnés. Tous les projets rendus sont mis à disposition pour l'analyse aux représentants des sites, à la commission d'expertise bien sûr, mais au jury aussi. Et on va commencer avec l'expression d'expertise à analyser les projets pour aller vers une présélection à proposer au premier tour du jury. Le jury rebattra les cartes. Et le jury, c'est aussi la participation des collectivités au jury. Donc, on aura 25% des projets qui seront présentés. Tous les projets seront là. On peut passer 2 jours consécutifs à recevoir les représentants des sites, à les revisiter les projets, à les réexposer, à demander des éclaircissements avec des membres de jury qui seront sans doute nommés aussi référents sur certains sites, etc. Et ensuite, il y aura un deuxième tour de jury où on sélectionnera définitivement, jusqu'à maintenant c'était 3, ça changera peut-être, mais ça ne sera pas moins que 3, des projets sur un territoire, voilà, de projets qui seront choisis, qui seront sélectionnés, avec ensuite des primes qui sont attribuées par le jury sur l'ensemble des sites. Voilà, donc il y aura, et pour ça je voudrais le redire, l'argent est bien sanctuarisé, il y a bien des primes qui sont réservées avec en général 18 000 euros par site et parfois répartis un peu différemment parce que on peut. Donc ça représente 180 000 euros qui ont été mis de côté pour payer les primes. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis il y a un moment très bien, et là on se rappelle qu'on est européen quand même, hein, parce que depuis le lancement de concours, on a un peu oublié. Bon, nous, on a évidemment des réunions de secrétariat pour préparer les différents événements. Mais on va se retrouver à un forum européen qui s'appelle le Forum des villes et des jurys. La ville de Vienne va nous accueillir. Ça durera 2 jours, au mois de novembre. J'en dis pas trop parce que les candidats, évidemment, ne sont pas conviés. Et ça sera un moment où on va débattre, examiner, observer les projets présélectionnés. Je dis ça pour tous les candidats qui seront présélectionnés et peut-être pas sélectionnés en finale. Ils auront été accueillis à Vienne, montrés, débattus, ils seront publiés, de toute façon on le fait systématiquement dans nos catalogues, et valorisés aussi, et on espère aussi qu'ils pourront tirer parti de cette, en tout cas, présélection pour tous les projets. Et c'est un moment où on va se retrouver, et c'est un moment vraiment européen important, parce que c'est là où on va pouvoir observer quelles idées... Il y a un conseil scientifique européen, il y a un conseil technique, conseil scientifique. Et ce conseil scientifique va pouvoir faire ce travail absolument indispensable de trouver les points communs, trouver les différences entre les différents participants dans les pays européens.
Ruben, la deadline pour rendre ?
Ce sera le 30 juillet.
Le 30 juillet, ça approche ?
Oui, ça approche. On est exactement à mi-parcours. On fait un événement la semaine prochaine.
D'accord.
Je vous en ai pas parlé. Vous êtes tous conviés, tous ceux qui écoutent évidemment cette émission, le 2 juin. Et puis pour ceux qui ont...
Où ?
Elle a lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Oui. Toute la journée, toutes les infos sur le site de la Cité et sur le site Europan, bien sûr.
Super.
C'est un événement consacré au site en France.
Oui, avec les collectivités qui viennent présenter.
Tout le monde est là, des membres du jury seront là aussi également.
D'accord. Et alors le verdict, c'est en décembre ?
L'annonce des résultats, c'est le 5 décembre. Mmh. Et donc là, on fera une petite fête improvisée. Évidemment, off, on invitera quand même, parce que les résultats, c'est le même jour, je crois, sur la plateforme. On invitera évidemment les équipes sélectionnées. Mmh. Mais ça sera ouvert à tous.
Alors moi, je lance un appel aux futurs mentionnés et lauréats qui nous contactent le plus vite possible pour qu'on parle d'eux à brûle pour point, on va dire. Et de toute façon, on essaiera de diffuser tout au long de l'année 2024, qui s'annonce bien riche.
Merci beaucoup Anne-Charlotte. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui continuent. Ouais. Là, on lance des suites. On a beaucoup, beaucoup de suites de concours sur Europe 16. Et là, il va y avoir des projets. Ça prend du temps. Il faut être patient. Mais si vous voulez recevoir aussi les équipes qui font des suites, je les inciterai à vous contacter. Voilà, ils ont plein de choses à raconter.
Bon, un mot de la fin pour l'un et l'autre. Ruben.
Merci encore de nous avoir invités. Et merci à tous les participants à cette session d'Europe 17. Je leur souhaite bon courage et j'espère qu'on aura des très beaux projets.
Ouais, certainement, comme chaque année.
Voilà, un petit message, c'est que nous, on est toujours aussi enthousiastes. On est vraiment, on vous attend avec impatience. C'est le plus beau moment de la session, c'est quand on voit les projets arriver. C'est vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Donc, et sachez aussi qu'on passe le relais pour les équipes qui sont sélectionnées. Et même parfois d'autres, parfois ils deviennent experts. Pour tous ceux qui ont passé l'âge, n'hésitez pas à candidater pour devenir expert. Je précise quand même que pour être expert de projet, souvent être expert de site, c'est pas mal. Mais le démarrage, c'est au recrutement des experts de site. Ne ratez pas les annonces.
Bon, c'est formidable. Merci infiniment, Isabelle et Ruben, pour ce témoignage sur une session qu'on espère très prolifique. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous en tirerez plein d'inspiration pour vos projets. À très bientôt avec des projets à expliquer, à montrer, j'espère. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir à vous deux. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et au revoir aux auditeurs, bien sûr. À bientôt.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.